de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Vice-président a déclaré que les élections de 2024 seraient les plus grandes au monde. Chercheurs affirment que l'adhésion à l'OCDE incite l'Indonésie à devenir un pays à revenus élevés. Vice-président invite la diaspora indonésienne à devenir des résolveurs de problèmes de la dynamique mondiale. Portugal s'intéresse aux travailleurs indonésiens de l'hôtellerie et de la restauration. Indonésie est prête à participer à l'exposition universelle de 2025 au Japon. Voici le journal complet. Le vice-président Maruf Amin a assisté au dialogue national impliquant environ 300 diasporas indonésiennes des diverses communautés à Auckland, en Nouvelle-Zélande, jeudi 29 février. Dans son discours, Maruf Amin a apprécié les élections de 2024 qu'il a qualifiées de sûres, ordonnées et fluides. Selon Maruf, le monde surveille les élections en Indonésie car il s'agit de l'une des plus grandes élections au monde.
Mata dunia tertuju pada pemilu Indonesia karena merupakan salah satu yang terbesar di dunia.
Les yeux du monde entier sont tournés vers les élections indonésiennes car elles sont l'une des plus grandes au monde. On estime que plus de 200 millions d'électeurs nationaux et un cinquième million de citoyens indonésiens à l'étranger ont voté. Ils ont été étonnés de voir comment il a réussi à gérer 200 millions avec une telle répartition dans les régions. Mais Dieu merci, nous le pouvons et nous l'avons fait à plusieurs reprises. Mais plus sincère remerciement à vous tous qui avez exercé votre droit de vote. À cette occasion, le vice-président a apprécié la participation de la diaspora indonésienne en Nouvelle-Zélande à l'utilisation de son droit de vote aux élections de 2024. Selon lui, faire des choix lors des élections est une forme de souci de faire avancer la vie nationale et étatique. Maruf Amin a déclaré que les élections sont une mise en œuvre de la constitution de l'État et une forme de démocratie en Indonésie. Il a également exprimé son plaisir de pouvoir visiter et rester en contact avec le peuple indonésien à Auckland et Wellington. Chercheur à l'Institut pour le développement de l'économie et de la finance, INDEF, Ahmad Khairi Firdaus espère que l'Indonésie pourra devenir plus rapidement un pays à revenus élevés si elle entre officiellement en tant que membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Lors du débat public de l'INDEF tenu à Ligne jeudi, Khairi a déclaré que le PIB par habitant de l'Indonésie n'a actuellement atteint que 4 900 $19.7, tandis que le PIB moyen par habitant des pays membres de l'OCDE atteindra $51,315 en 2023.
Kalau dilihat dari rata-rata GDP per kapita negara anggota OECD ini sudah
silang regat le PIB moyen par habitant des pays membres de l'OCDE sont tous des pays développés. Ont des revenus élevés, supérieurs au seuil de la Banque mondiale, supérieurs à $12,000-$13,000. Nous espérons qu'en nous rejoignant, nous pourrons évoluer plus rapidement vers une économie à revenus élevés comme celle-là. Harry a ajouté que la contribution économique des pays de l'OCDE au PIB mondial atteindra 41,1% en 2023, soit la deuxième plus grande après celle du G20. Selon lui, avec un grand marché, il s'agit d'une opportunité qui devrait faciliter l'accès de l'Indonésie au marché. Auparavant, l'Indonésie avait été autorisée à passer à la phase d'adhésion à l'OCDE le 20 février 2024 avant d'entrer dans cette organisation. Le gouvernement indonésien a soumis son souhait de devenir membre de l'OCDE depuis juillet 2023. Le vice-président de la République d'Indonésie, Ma'ruf Amin, invite la diaspora indonésienne en Nouvelle-Zélande à jouer un rôle dans la solution des problèmes liés à la dynamique géopolitique et géoéconomique mondiale incertaine. Cette invitation a été transmise par Ma'ruf Amin lors de l'ouverture du dialogue national à Auckland en Nouvelle-Zélande jeudi 29 février. Devant environ 300 diasporas indonésiennes, le vice-président a souligné que l'Indonésie s'engage à toujours faire partie de la solution et non du problème de la situation actuelle. Cet engagement inclut également les efforts de l'Indonésie pour instaurer la paix mondiale, dont l'un consiste à soutenir l'indépendance du peuple palestinien. Ma'ruf Amin a également déclaré que l'un des éléments de la politique étrangère indonésienne est un effort pour mettre en œuvre l'ordre mondial en donnant la priorité au dialogue interreligieux. L'Association des propriétaires d'hôtels, de restaurants et de cafés du Portugal, AHRESP, s'intéresse aux travailleurs indonésiens du secteur du service à la clientèle. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Association indonésienne des hôtels et restaurants PHRI de DKI Jakarta, Iwantono Sutrisno, dans une déclaration écrite citée par Antara jeudi. Iwantono a déclaré qu'actuellement, la direction du PHRI de DKI Jakarta est au Portugal pour participer au salon touristique Bolsa Turisme de Lisboa qui se tiendra à Lisbonne au Portugal du jeudi 29 février au dimanche 3 mars. Il a été indiqué que lors de la réunion du PHRI de DKI Jakarta, le directeur des finances et de l'économie de la HRESP, Pedro Carvalho, a déclaré qu'actuellement, le Portugal manque d'environ 50 000 travailleurs qualifiés qui travaillent généralement dans les hôtels et les restaurants. PHRI de DKI Jakarta et AHRESP ont convenu de la coopération en matière de développement humain, y compris l'approvisionnement en main-d'œuvre. Iwan Tongko a ajouté que l'équipe d'AHRESP se rendrait à Jakarta pour en discuter davantage, puis signerait un protocole d'accord. L'Indonésie est prête à participer à l'exposition universelle de 2025 à Osaka, au Japon, du 13 avril au 13 octobre 2025. L'exposition universelle 2025 est la principale plateforme permettant à divers pays de réaffirmer leur engagement à atteindre les objectifs de développement durable de 2030. Le ministre de la Planification du Développement National, en tant que chef de l'Agence nationale de planification du développement, Suharto Monoarfa, a déclaré à Osaka, cité par Republika jeudi 29 février, qu'en tant que plus grand pays archipel habité par la quatrième plus grande population et la deuxième plus grande biodiversité dans le monde, l'Indonésie a mis en œuvre diverses stratégies pour atteindre les objectifs de développement durable. L'année dernière, un rapport des Nations Unies a déclaré que l'Indonésie était l'un des pays ayant réalisé les objectifs de développement durable les plus progressistes parmi les pays à revenus intermédiaires supérieurs. Jusqu'en février 2024, les indicateurs des objectifs de développement durable de l'Indonésie atteignaient 63% du total des cibles pouvant être évaluées. Saya Zurita, CTL Le Journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voici le commentaire d'aujourd'hui dont le titre est « L'OTAN n'a pas l'intention d'envoyer des troupes en Ukraine ». L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a déclaré qu'elle n'enverrait pas de troupes en Ukraine. Cette déclaration a été publiée après que le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'envoi de troupes en Ukraine ne pouvait être exclu. Après avoir tenu la conférence des dirigeants européens en France lundi dernier, Macron a déclaré que rien ne pouvait être exclu pour atteindre les objectifs de l'OTAN. Selon lui, la Russie ne peut et ne doit pas gagner la guerre. Le secrétaire général de l'Organisation de défense de l'Atlantique Nord, ou abrégé en OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l'Alliance n'avait pas l'intention d'envoyer des troupes de combat en Ukraine. Dans le même temps, la Maison-Blanche a également déclaré mardi que les États-Unis n'enverraient pas de troupes combattre en Ukraine. La porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Adrienne Watson, a déclaré que le président Joe Biden avait clairement indiqué que les États-Unis n'enverraient pas de troupes combattre en Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz a également rejeté mardi l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine. Il a souligné que ce qui avait été convenu dès le départ entre les membres de l'OTAN s'applique également à l'avenir, à savoir qu'il n'y aurait pas de troupes sur le sol ukrainien envoyées par le pays européen ou par le pays de l'OTAN. Scholz a également souligné que les soldats basés dans ce pays ne devraient pas participer activement à la guerre en Ukraine contre la Russie. Cela n'est nécessaire que pour empêcher l'escalade de la guerre entre l'OTAN et la Russie. Le premier ministre suédois Ulf Kristersson, dont le pays est sur le point de rejoindre l'OTAN, a également déclaré qu'il n'envisageait pas actuellement d'envoyer des troupes terrestres en Ukraine. La Pologne, la Grande-Bretagne et l'Espagne ont également publiquement rejeté cette idée qui mettrait les troupes des États membres de l'OTAN en conflit direct avec la Russie. En réponse à la déclaration du président Emmanuel Macron, le gouvernement russe a déclaré mardi qu'un conflit avec l'OTAN était inévitable si les pays occidentaux, membres du pacte de défense, envoyaient des troupes en Ukraine. Le porte-parole du gouvernement russe, Dmitri Peskov, a rappelé lors d'une conférence de presse à Moscou que les pays membres de l'OTAN doivent être en mesure d'évaluer les conséquences possibles de cette décision et se rendre compte qu'elle n'est en aucun cas conforme aux intérêts de chaque pays. Peskov a déclaré qu'un certain nombre de pays occidentaux étaient déjà tout à fait conscients des conséquences et des menaces potentielles qui pourraient surgir si l'envoi de troupes en Ukraine était effectué. L'article 5 des principes de défense collective de l'OTAN stipule que si un membre de l'Alliance est attaqué en Europe ou en Amérique du Nord, cela est alors considéré comme une attaque contre tous les membres et l'Alliance prendra les mesures qu'elle juge nécessaires pour aider les alliés. 2 ans se sont écoulés depuis le conflit russo-ukrainien, mais rien ne laisse présager une fin prochaine. Il est vrai que depuis le début du conflit russo-ukrainien, l'OTAN a apporté un soutien à l'Ukraine, notamment en lui envoyant des armes. Mais envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine pour aider les pays à affronter la Russie ne fera qu'empirer les choses. Le meilleur moyen est d'arrêter la guerre avant que les peuples des deux pays puissent vivre en paix. C'est tout le commentaire d'aujourd'hui.
Vous écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique d'histoire d'aujourd'hui. Je commence par les événements du 1er mars 1919, le mouvement du 1er mars en Corée. Le mouvement du 1er mars ou le mouvement Samil était des manifestations coréennes à grande échelle visant à s'opposer à la domination coloniale japonaise dans la région depuis 1910. Ce mouvement a débuté avec la lecture du texte de la proclamation d'indépendance le 1er mars 1919 à Séoul par 33 chefs religieux et culturels de Corée. Des manifestations ont éclaté à Séoul pour soutenir la proclamation qui s'est ensuite répandue dans toute la Corée. Selon Britannica, environ 2 millions de personnes ont participé à plus de 1500 manifestations. Le Japon s'est efforcé de réprimer les masses protestataires. Environ 7 000 personnes sont mortes et 16 000 ont été arrêtées à la suite de la réponse du Japon à cette action. Le mouvement du 1er mars est connu comme un tournant dans la lutte pour l'indépendance de la Corée et célébré à grande échelle chaque année, notamment en Corée du Sud. Le 1er mars 1936, l'inauguration du Barrage Over aux États-Unis. Le Barrage Over est situé aux États-Unis, précisément à la frontière des États d'Arizona et du Nevada. Le barrage a été construit de 1930 jusqu'à 1936 dans un canyon connu sous le nom de Black Canyon, où le fleuve Colorado coule au milieu. Ce barrage retient le lac Mead, l'un des plus grands lacs artificiels dans le monde. Le barrage Over a été inauguré le 1er mars 1936 et dans ses premières années d'exploitation, il était l'un des plus grands barrages au monde. Le barrage a été officiellement nommé Over en l'honneur du président Herbert Over par une résolution conjointe du Congrès des États-Unis en 1947. Le 1er mars 1949, l'attaque générale du 1er mars en Indonésie. L'attaque générale du 1er mars 1949 Ete Unatak Arme a Yogyakarta menipar l'Arme National Indonesian u TNI. L'objectif ete de prouver au monde que l'Indonésie, notamment de TNI, existait toujours et était forte. Parce qu'à cette époque, les Néerlandais lançaient une propagande selon laquelle la République d'Indonésie n'existait plus. Yogyakarta était choisi pour attaquer l'armée néerlandaise parce que Yogyakarta était à cette époque la capitale de l'Indonésie. En dehors de cela, le nombre de journalistes étrangers et observateurs militaires de l'ONU sont encore présents dans la ville. Lors de cette attaque, Yogyakarta était sécurisée par le TNI pendant 6 heures avant d'être finalement prise par les Néerlandais. Cependant, l'attaque a été considérée comme susceptible de faire pression sur les Pays-Bas pour qu'ils renégocient avec l'Indonésie. Le 24 février 2022, président Joko Widodo a désigné le 1er mars la journée nationale de mise en œuvre de la souveraineté de l'État. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang terkadang kembali tenang. Oh, siapa dalangnya? sudahi saja.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie ayant pour le titre « Le ministre des coopératives et des PMO souhaite que l'Indonésie devienne le leader des exportateurs d'artisanat à l'ASEAN ». L'Indonésie devrait devenir le leader des exportateurs d'artisanat en Asie du Sud-Est, étant donné que l'Indonésie possède désormais la plus grande exposition d'artisanat dans la région, à savoir Inacraft. Cet espoir a été exprimé par le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, PME, Teten Mas Duki, lors de l'ouverture officielle de la plus grande exposition d'artisanat d'Asie du Sud-Est, Inacraft 2024, à Jakarta Convention Center, JCC, mercredi 28 février, cité par Antara. Dans son discours, Teten Mas Duki a apprécié l'Association indonésienne des exportateurs et entrepreneurs de l'artisanat, ASEPHI, pour son succès dans la promotion de la marque Inacraft en Asie du Sud-Est. Teten Mas Duki a déclaré qu'Indonésie détient une part de marché d'environ 1,25% dans l'industrie mondiale d'artisanat et que ce chiffre devrait continuer d'augmenter. Selon lui, la richesse des ressources naturelles et les compétences des artisans indonésiens pour les transformer en produits décoratifs et artisanaux spéciaux sont des opportunités pour les artisans de dominer le marché intérieur. Il espère qu'avec la forte image de marque d'Inacraft en Asie du Sud-Est en 2024, l'Indonésie pourra devenir un exportateur de produits artisanaux dans cette région et entrer avec succès dans la liste des 10 plus grands exportateurs d'artisanat au monde. Le président général de la SEPHI, Muhsin Rijan, a déclaré que les organisateurs visent à ce que l'Inacraft 2024 attire 100 000 visiteurs avec des transactions de 100 milliards de rupiah. L'exposition qui devrait attirer 70 à 100 acheteurs pourrait également obtenir des contrats commerciaux d'une valeur de 12 millions de dollars américains, soit environ 188 milliards de rupiah. Inacraft 2024, qui se déroule du 28 février au 3 mars, a réuni environ 1500 petites et moyennes entreprises, PME, qui remplissent 1066 stands. Cette exposition occupe la totalité du hall JCC qui a une superficie d'environ 20 231 m2 afin que l'exposition puisse accueillir toutes les activités promotionnelles et autres événements de soutien.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Telah menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi ku tak tahu. Saat kau pulang kembali pintu ku kunci. Jangan menunggu depan. Thank you.
Jangan mengetuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu hati. Lukaku bukanlah tujumu. Kau bukan penghuni hatiku lagi.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter le village touristique de Pujon. Pour ceux d'entre vous qui voyagent à Malang dans l'est de Java, il y a le village touristique de Pujon Kidul que vous devez visiter. Situé dans le district de Pujon, dans la région de Malang à l'est de Java, vous pouvez jouer dans le village, pratiquer diverses activités passionnantes et trouver des sports instagrammables. Pour visiter le village touristique de Pujon, venez tôt le matin, puis marchez environ 2,6 km ou bien conduisez 7 minutes jusqu'à la colline de Nirvana. De la haute, vous pourrez profiter de l'air frais du village de Pujon et du magnifique lever du soleil. Vous pouvez faire un arrêt au village culturel. Cet endroit est un quartier résidentiel local qui a été transformé en destination touristique avec des activités intéressantes, comme la fabrication de divers produits laitiers à Pawon Deso, ou l'apprentissage de la fabrication de batik, des masques, du gamelan et des danses traditionnelles à Rumah Belajar. Le batik tulis à Rumah Belajar est aussi un souvenir alternatif. Les types de motifs les plus populaires sont les motifs de libellule et de bambou. Si vous êtes intéressé à acheter, le prix est d'environ 350 000 rupiah jusqu'à 800 000 rupiah. Dans cette attraction touristique, il y a aussi Fantasyland 4D avec une belle étendue de jardin et des statues de personnages animés. Bien sûr, il y a aussi de nombreux spots photo instagrammables. Il existe également des installations pour regarder des films en 4 dimensions, comme dans un mini cinéma. Il y a aussi la route 78 dans le village touristique de Pujon Kidul. Cette destination proposait des activités passionnantes telles que le paintball, des jeux de marcher sur l'eau depuis l'intérieur d'une boule géante, des véhicules tout-terrain, des moteurs de trail et des piscines. Après avoir visité le village touristique de Pujon Kidul, pour ceux d'entre vous qui sont fatigués, vous trouverez ici un magnifique café sawah avec vue sur les rizières vertes e ang sua de Belvedere u de Caban com lio de Restauration. Dans le village de Pujan Kidul, il existe également des hébergements avec des installations complètes. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Kan ku berikan hanya untukmu semua cintaku setulus hatiku dapat kau pastikan hanya milikmu selalu. Terbawa arus derita dan terdampar di pangkuannya, tak ada satu yang bisa membuatku lebih bahagia. Walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Adanya hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti cinta. Oh, walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau hanya bisa kau rasa. Berikanku seutuhnya, terimaku apa adanya.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Le Festival du Thé Glacé. Buat dute et devenu une habitude et fait partie de la société indonésienne. Soit siroter du thé chaud le matin avant de commencer les activités, soit siroter du thé frais glacé lorsqu'il fait chaud. Le thé est très apprécié à tous les âges, des enfants jusqu'aux adultes. L'Indonésie est également l'un des plus grands producteurs de thé dans le monde. Donc, près de la moitié est un produit d'exportation. Le thé est si populaire que divers festivals liés au thé sont organisés, donc le festival du thé glacé. Le Conseil indonésien du thé organise un week-end party au festival du thé glacé à Bekasi dans l'ouest de Java du 29 février jusqu'au 3 mars 2024. Le directeur exécutif du Conseil indonésien du thé, M. Hari Hendrato, a déclaré que l'événement qui comprenait un concours de service de thé glacé faisait partie d'une campagne visant à encourager les gens à boire du thé. Le contexte de cette activité est la prolifération des stands de thé glacé dans la région. Il s'est dit heureux que les gens aiment de plus en plus boire du thé. Le thé n'est pas seulement une boisson rafraîchissante. Selon Hari, le thé présente de grands avantages pour la santé humaine, comme la prévention du diabète et du cancer, et aussi le bon pour le régime. Hari a déclaré que le Conseil indonésien du thé avait organisé une formation sur le service du thé selon les normes indonésiennes du thé pour soutenir les efforts visant à développer les activités de vente de thé. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur et pour thème le festival du thé glacé. Merci à tous, à bientôt.
Mama Sita. Three into the four. Do this one more time. Let's go.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine Musica. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, voici le magazine Musica. Palu Ngataku est une chanson régionale de Sulawesi Central écrite par Hassan Bahasuan. Palu Ngataku, qui signifie Palu où je vis, raconte l'histoire de la ville de Palu, qui est le patrimoine du peuple Kaili depuis des générations. Les paroles de cette chanson parlent également de la beauté et de la richesse de la nature, qui est une source de fierté, ainsi que du fort sentiment d'unité que prouve le peuple Kaili. Lorsque les habitants de Palu migrent, leur ville reste dans leur mémoire. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Palu Ngataku de Sulawesi Central, interprétée par Bro Aka. Bonne écoute!
Palu ngataku pon turun tubuhku sampe nomaku pon turun tuamaku ante ya kuringatan tona
na tanto na naro. Na kotora tora aneri rimenula rita linti but na haroa na ja tanto na naroa palu kana kotora tora palu kana kotora tora
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voixindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voix Indonesia, et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!